André d'Hôtel, Le pays où l'on n'arrive jamais. Septième cassette, première face, page 169. Je suis producteur, expliqua M. Résideur. Je finance des films, je lance des vedettes, je conseille les metteurs en scène, je joue moi-même quelquefois. Mais je donnerais une fortune pour voir cette Hélène qui est si belle et si douée. Cher jeune homme, vous me présenterez ce joyau, je le présume. Gaspard ne doutait pas qu'Emmanuel Résidor ne fût complètement fou. Mais depuis le temps de l'homme Inval et de sa tante Gabrielle, il avait appris que l'originalité est la règle en ce monde et qu'il faut avant tout ne pas contrarier les bonnes dispositions des gens que l'on rencontre. Nous sommes entraînés dans le fantastique, voyez-vous, reprit Emmanuel Résidor. La vie n'est pas autre chose qu'un film, je le répète sans cesse autour de moi. Non, dit Gaspard, Hélène a le droit de chercher sa famille et son pays.
Voyez ce jeune homme qui va parler de droits et de devoirs, déclamait M. Résidor, comme s'il s'adressait à un nombreux auditoire. Voyez ce jeune homme qui prétend que la vie pourrait valoir mieux qu'un film.
Enfin, après de longs et inutiles discours, M. Résidor déclara qu'il accueillerait Hélène avec d'autant plus de plaisir qu'elle viendrait à l'insu de son tuteur. Voulez-vous que je lui écrive une invitation en bonne et due forme, demanda-t-il enfin. Je préfère la renseigner d'abord, insistait Gaspard. Je ne sais pas ce qu'elle fera, ni ce qu'elle pourra faire. Alors à votre aise, jeune homme, préparez-nous cette entrevue. Désirez-vous voir ma collection de moustaches de chat? Gaspard y consentit. Il put se rendre compte des dimensions et de l'aménagement du château. On traversait des pièces aux meubles somptueux, mais il y en avait d'autres livrées aux araignées où s'entassait un bric-à-brac déconcertant. Des coquillages, des fragments de rochers, des pendules, des fléaux à battre le grain, des poils de tout âge et de toute provenance, poils russes, allemands, flamands. C'est ici que je puise l'inspiration pour mes décors, disait M. Résidor. Il me faut d'innombrables témoins de toute vie. On suivait des couloirs ornés de peintures, de statues, de queues de cheval. Gaspard aperçut aussi des chapeaux de tout pays et même des panneaux de signalisation tels qu'on en voit sur les routes. Des escaliers menaient indifféremment à des paliers de marbre ou à des étages complètement défoncés. Enfin, dans un lieu perdu de la maison, M. Résidor ouvrit une porte basse qui donnait sur une pièce tapissée de tentures. Sur ces tentures étaient suspendus des cadres et Gaspard put contempler à loisir des pelotes à épingles où l'on avait planté des moustaches de chat. Il y avait aussi des moustaches d'autres félins dont on lisait les noms écrits en lettres d'or au bas des cadres. « Admirez, mon jeune ami, admirez !» disait Emmanuel Résidor. « Imaginez la face des chats, des panthères et des jaguars. Tenez, celui-ci devait être un rêveur, et celui-là très méchant. Les moustaches très longues sont un signe de fierté. Les courtes moustaches montrent l'arrogance. » Et maints autres discours, dont Gaspard ne fut quitte qu'au bout d'une heure. Après quoi, son hôte le conduisit à travers un nouveau dédale jusqu'au perron du château. Gaspard regarda encore de tous ses yeux le paysage du lac dans la forêt avec les bouleaux et les palmiers. Une auto énorme, longue comme une fusée, s'avança silencieusement devant le perron.
J'ai donné mes ordres pour vous reconduire, maître Gaspard Fontarel. Je vous présente Bidivert, B-I-D-I-V-E-R-T, dit Monsieur Résidor.
Bidivert était un homme rond comme une boule, vêtu d'un costume écossais vert et noir. Il se tenait au volant de la voiture et il descendit pour saluer Gaspard.
Bidivert est mon homme d'action, expliqua M. Rezidor. Il a gagné des courses d'automobile, de bobsleigh et mené mon yacht à la victoire. Il pourrait abattre un pan de forêt en une matinée.
Gaspard n'avait jamais été de sa vie aussi stupéfait. Il n'arrivait pas à comprendre les mœurs de ces gens. Enfin, M. Rezidor dit au revoir à Gaspard et en s'adressant à Bidivert.
« Reconduisez ce jeune homme à Lominval, dit-il. « Je ne vais pas à Lominval, je vais en Belgique, au village de Trinthe, » s'écria Gaspard. « Monsieur Bidivert, conclut Monsieur Rezidor, vous conduirez Monsieur Fontarel où il le désirera, et aussi bien à Vladivostok, au fin bout de la Sibérie, si tel est son bon plaisir. »
Gaspard, absolument étourdi, monta dans la voiture. Il se demandait si Emmanuel Rezidor avait complètement oublié le sujet de leur conversation ou s'il n'avait pas mélangé toutes choses dans sa cervelle d'artiste. Il fut un moment assez inquiet sur la direction que prendrait Bidivert. En vérité, Bidivert fonça à 100 à l'heure dans les allées très compliquées de la forêt avant de rejoindre la vallée de la Meuse que Gaspard revit avec bonheur. On passe à la frontière sans aucune difficulté, les douaniers et Bidivert ayant échangé quelques paroles de reconnaissance. L'auto arriva en un temps record aux abords de Trinthe. Gaspard pria Bidivert de l'arrêter à l'entrée du village et il courut vers le lieu où Nicolas avait établi la veille leur campement. Nicolas était assis, les pieds pendant à l'arrière de la voiture. Jérôme et Ludovic, qui sans doute venaient d'arriver, racontaient leur équipée et dévoraient, pendant ce temps-là, des tartines de beurre. Lorsqu'ils aperçurent Gaspard, ils coururent à sa rencontre.
« Mais par où es-tu revenu ? On a essayé de t'attendre, mais un domestique nous a coursé et on a eu la chance de trouver le chemin. »«
Quelle histoire ! » dit Gaspard.
Il rapporta ce qui lui était survenu, ne manqua pas de dire qu'il avait vu d'abord le nom de Génie écrit sur le volet. Il eut bien du mal à expliquer le comportement d'Emmanuel Rezidor. «
Maintenant, je dois prévenir Hélène, » conclut Gaspard.
Nicolas dit simplement « Je regrette que mon hypothèse se soit vérifiée. »«
Oui, je le regrette beaucoup. Le lac et les palmiers avec les bouleaux, c'est impossible de croire qu'ils ne correspondent pas à la description qu'Hélène a faite de son pays. » De tels paysages sont rares. Mais le château et le châtelain ne m'inspirent aucune confiance.
Ce jour-là fut employé à prendre des renseignements sur Emmanuel Rezidor. Il était bien connu du côté belge. Personne ne savait exactement ce qu'il fallait penser de lui, mais on s'accordait pour affirmer qu'il avait un cœur d'or et que c'était l'innocence même. Si l'on avait besoin de lui, il se mettait en quatre. Il s'était endetté pour aider les sinistrés et il faillit même perdre, disait-on, sa fortune dans l'affaire. Il s'était rétabli par une opération financière inattendue. Mais il s'amusait de tout et il avait la cervelle à l'envers.
Il peut accueillir Hélène, dit Gaspard, et l'aider à chercher sa famille.
Ah, je ne sais pas, dit Nicolas. Pour ma part, je ne suis guère de cet avis.
Je veux prévenir Hélène, dit Gaspard.
Nicolas consentit enfin à donner à Gaspard un peu d'argent pour aller à Anvers par le train. Il pensait qu'il avait tort de favoriser une telle démarche, mais il ne sut pas résister au désir de ses enfants qui plaidèrent la cause de Gaspard. Ainsi, Gaspard, malgré sa fatigue, prit un car jusqu'à la prochaine station de chemin de fer vers la fin de l'après-midi. Il dormit dans son compartiment et faillit manquer la correspondance. Il arriva à Anvers à la nuit tombée et passa cette nuit-là dans la salle d'attente de la gare. Dès l'aube, il se mit en campagne. Il n'était pas difficile de trouver la maison de M. Drapeur. Hélène en avait parlé longuement. Gaspard pensait faire le guet devant la maison
et surveiller les sorties d'Hélène. Il attirerait son attention de quelque manière et elle trouverait un moyen de lui parler. Il resta des heures devant la maison sans apercevoir personne. Dans l'après-midi, il se risqua à questionner un gamin qui rôdait sur le trottoir. Le morveux lui déclara avec fierté qu'il savait que M. Draper était en vacances à Temschen, T-E-M-S-C-H-E-N. Gaspard ne put obtenir d'autres renseignements. Il gagna Temschen par le bateau. La résidence d'été du Diamantaire était une des villas les plus remarquables de l'endroit. La première personne que Gaspard rencontra dans le beau quartier le guida sans hésiter. Une villa de ciment. Elle avait une allure de forteresse espagnole. Elle était construite toute d'un bloc et ornée de céramique. Sur le devant, des pelouses en pente occupaient une bande étroite, de telle façon que les baies du rez-de-chaussée devaient prendre vue aisément sur le fleuve. La barrière de ciment qui entourait les pelouses était facile à franchir. Gaspard s'appuya de l'épaule à cette barrière, comme un promeneur qui éprouve le besoin de méditer. Il lui suffisait de tourner un peu la tête pour surveiller le jardin et la villa. Vers 6 heures du soir, une voiture s'arrêta devant la grande porte. Hélène en descendit avec sa gouvernante. Elle aperçut Gaspard, et tandis que la gouvernante s'avançait, elle fit un léger signe au garçon pour marquer qu'elle l'avait reconnu. Ce fut seulement 2 heures plus tard que Gaspard la revit à la fenêtre du rez-de-chaussée. Aussitôt qu'elle parut, elle ouvrit et ferma les mains, tour à tour, comme le font tous les écoliers lorsqu'ils veulent se communiquer un chiffre. Gaspard répéta cette mimique pour s'assurer qu'il s'agissait bien du chiffre 11. Puis il s'éloigna. Il revint à 11 heures. Hélène l'attendait derrière la clôture en ciment. Ils se serrèrent les mains à travers les ouvertures. « Personne ne te surveille ?» demanda Gaspard. « Nous ne risquons rien, » dit Hélène. La nuit était assez sombre. On entendit crier le gravier d'une allée. « Il y a quelqu'un, » dit Gaspard. « Personne, rassure-toi. C'est simplement le chien qui me connaît. Je l'ai attaché à un arceau. » « J'ai vu ton pays !» dit Gaspard. À mi-voix, il conta son aventure dans le château d'Emmanuel Rosidor. Hélène posa quelques questions. « Je crois qu'il faut que j'aille là-bas, » dit Hélène. « Je voulais te prévenir simplement, » dit Gaspard. « Je ne suis sûr de rien. Mais il y a ce nom de génie. Peut-être, Monsieur Draper, te permettrait-il d'aller là-bas s'il t'accompagnait ? Jamais, dit Hélène. Il se moque de moi maintenant. Il me défie de jamais découvrir mon pays et ma famille. Je veux aller voir M. Résidor. Je n'aurais peut-être pas dû, observa Gaspard, si je me suis trompé. Si tu t'es trompé, je reviendrai ici. D'ailleurs, de toute façon, je reviendrai. Je ne veux plus faire d'histoire. Et j'attendrai une occasion d'être plus libre. » On entendit encore crier le gravier, mais beaucoup plus près. « Le chien !» dit encore Hélène. « Ce n'est pas un chien. Il est difficile d'apprécier les bruits dans l'obscurité. » Le silence s'était rétabli. Hélène et Gaspard restèrent sans bouger ni prononcer un mot pendant un long temps. Enfin, Hélène dit « Je pars avec toi, tout de suite. Nous prendrons d'abord n'importe quel train, puis nous rejoindrons la vallée de la Meuse. Tu n'es plus surveillé ? Ils supposent que je suis désespéré et ils croient qu'ils m'ont dominé complètement. » Hélène alla chercher un léger bagage et revint aussitôt. Il lui fut facile d'escalader la barrière de ciment. Ils s'éloignèrent ensemble, tout surpris de marcher librement dans les rues de la ville. Ce n'est pas croyable que tu sois avec moi, disait Gaspard. Ne crains rien, répondit-elle. Gaspard ne comprenait pas qu'Hélène eût pu s'échapper. Le reste de l'affaire, il est vrai, ne fut pas aussi aisé. ils durent aller à pied jusqu'à Anvers. Une marche de 20 kilomètres. Ils arrivèrent, épuisés, à la gare centrale, vers 5 heures du matin. Gaspard demanda 2 billets pour Malines, après avoir consulté la fiche des trains en partance. À Malines, ils pouvaient prendre un autre train vers le sud. Ils furent à Dinan dans la soirée. Ils sortirent de la gare en se pressant derrière une famille nombreuse.
« Tout cela n'est pas normal, » répétait Gaspard.
« Pendant ma maladie, je n'ai fait que penser à maman Jenny. Je la revoyais et elle m'appelait. »«
Alors il le fallait, » dit Gaspard. Ils étaient descendus à Dinan parce que c'était la dernière station un peu importante vers le sud. On devait moins les remarquer que dans une petite gare. Ils flânèrent un peu le long des rues de la ville qui étaient gaies et claires. Ils entrèrent à l'église sous les rochers abrupts de la forteresse. Puis ils prirent la route de Givet, le long de la Meuse. Après avoir marché pendant une heure sur cette route, ils s'enfoncèrent dans la campagne et trouvèrent un abri sous une meule. Ils dormirent jusqu'à l'aube et reprirent leur marche. Pour arriver à Trinthe, ils avaient 40 kilomètres à parcourir. À mi-chemin, quand ils eurent dépassé Agimont, A-G-I-M-O-N-T, ils pensèrent qu'ils ne pourraient pas aller plus loin. Ils eurent la chance de monter sur le plateau d'un camion vide qui s'était arrêté non loin d'eux et qui les trimballa à l'insu du chauffeur jusqu'aux environs de Trinthe sur la route de Marienbourg, M-A-R-I-E-N-B-O-U-R-G. Ils descendirent à tout hasard lorsque le camion s'arrêta dans un village où ils découvrirent la route de Trinthe, une petite route montante et tortueuse. La route était déserte. Ils s'arrêtèrent 20 fois. La fatigue les accablait. Aux abords de Trinthe, ils se cachèrent dans un champ de fèves et attendirent la nuit pour rejoindre Niclas qui avait promis de rester aux abords du village jusqu'au retour de Gaspard. C'est à peine s'ils purent manger ce que Ludovic et Jérôme leur offrirent. Ils tombaient de sommeil. Ce fut seulement le lendemain matin que Niclas parla avec Hélène.
Vous savez que c'est toujours une mauvaise action que de quitter la maison qui vous nourrit, Niclas. Je ne pensais pas que vous réussiriez à venir jusqu'ici avec Gaspard.
Je n'avais pas d'autre moyen, dit Hélène. Monsieur Drapeur refuse de m'aider à retrouver ma famille. Il se moque de moi et il prétend que je dois faire une belle carrière sans s'occuper des miens.
C'est une situation difficile, en effet, dit Niclas. Mais si vous ne trouvez pas tout de suite ce que vous cherchez ici, promettez-moi de rejoindre M. Drapeur.
Je le promets, dit Hélène.
Niclas était allé jusqu'au château en passant par la forêt. Il reconnaissait que le lieu avait quelque chose de saisissant et qu'il ne pouvait être confondu avec aucun autre.
Malgré tout, concluait Niclas, rien n'est sûr. Et vos souvenirs sont bien lointains.
Ludovic et Jérôme écoutaient sans rien dire. Il fut convenu que Gaspard conduirait Hélène dans les chemins des bois et qu'il lui ferait d'abord voir le parc du château. Après quoi, il se présenterait à Emmanuel Résidor et il le presserait de leur procurer des informations sur les anciens habitants du château. L'homme ne pourrait s'y dérober en voyant Hélène. S'il prévenait M. Drapeur, celui-ci se trouverait obligé de reconnaître que la démarche d'Hélène était tout à fait légitime.
Rien ne se passa comme on pouvait le prévoir. Tout fut inexplicablement facile.
Lorsqu'Hélène arriva avec Gaspard dans le bois de Troène qui bordait le lac, elle fut saisie d'étonnement. Le lac, la forêt, les bouleaux, les palmiers formaient un ensemble si extraordinaire qu'on ne pouvait y rien imaginer de plus beau. Des larmes vinrent aux yeux d'Hélène.
« Alors ?» demanda Gaspard.
« Je ne sais pas, dit Hélène, je ne reconnais rien. C'est plus beau que ce que je croyais, mais voilà sûrement le grand pays de maman Jenny. » Ils contournèrent le lac et se rendirent au château. Un domestique les reçut. Il leur répondit que M. Résidor était absent et qu'il ne tarderait pas à revenir. Hélène et Gaspard attendirent dans un vestibule moyenâgeux dont les meubles, les coffres et les banquettes avaient tout l'éclat du neuf. Bientôt, une voiture s'arrêta devant le perron et M. Résidor se présenta en compagnie de Bidivert.
« Monsieur Fontarel, si je ne me trompe,
c'est Hélène Draper, » dit Gaspard.
« Ah, parfaitement, » dit M. Résidor. « Je suis enchanté de faire la connaissance d'une demoiselle romanesque et, par surcroît, je l'affirme, éminemment photogénique. Quelle beauté vous donne ce décor de Moyen-Âge américain, car ces meubles viennent directement d'Amérique, ainsi qu'il convient à la couleur locale. Bidivert, laissez-nous, je vous en prie. »
Bidivert s'éclipsa. Hélène ne savait que dire. Enfin, elle se reprit.
« Vous savez, monsieur, que je cherche ma famille. Eh oui, cette demoiselle cherche sa famille. Apprenez qu'Emmanuel Résidor est homme à découvrir les liens de famille les plus obscurs. Ne suis-je pas un inventeur ? Et inventer ne signifie-t-il pas découvrir ? Le latin, non plus que le turc, l'arabe et le patois bêche de mer, n'ont de secret pour moi. Ma profession m'oblige à connaître toutes les civilisations. N'ai-je pas, pour un film d'amour préhellénique, reconstitué tout le palais de Knossos en ciment, alors que l'original était simplement en bois ? Et n'ai-je pas rétabli dans leurs fastes magiques et redécouvert tous les cousinages des rois de Crète ?
Je voudrais, reprit Hélène.
Vous voudriez ?
Demandez seulement.
À mon signal, votre parenté vous apparaîtra comme sur un écran.
Pouvez-vous me renseigner sur Maman Jenny ? Demanda Hélène.
La fille du général Orpipe, l'ancien propriétaire de ce château, s'appelait Jenny, en effet. C'était une actrice et elle était mariée avec un architecte qui l'a laissée veuve assez tôt et qui, pour sa part, se nommait Bertrand.
Vit-elle encore ? Demanda Hélène.
Nul ne sait où elle se trouve aujourd'hui. Mais nous la ferons revivre s'il le faut.
Personne ne sait, reprit Hélène.
Personne ne sait, mais moi, je saurai. Je reconstituerai toute sa carrière. Je la suivrai par la pensée jusqu'au bout du monde. Je lancerai partout des policiers. Nous trouverons 1000 indices.
Ma chère enfant.
Oui, ma chère enfant, il faut nous laisser le temps de dérouler le film. Les secrets doivent être patiemment pénétrés. Nous allons prendre le thé, si vous le voulez bien.
Gaspard suivit M. Résidor et Hélène dans le salon, où un domestique apporta des plats de gâteau, des petits pains et de la confiture. M. Résidor tira de sa poche une lettre avec tant de vivacité qu'il sembla l'avoir saisie au vol comme elle passait dans les airs.
Vous constaterez que je n'ai pas perdu de temps. Monsieur Gaspard Fontarel avait l'autre jour à peine tourné les talons que je pressais mon notaire de compulser tous les dossiers sur tous les hors-pipes. Il résulte de son enquête que le général, sa fille et leurs enfants sont partis en 1940 par Mons et par Vaux, que leur voiture a été mitraillée, qu'ils ont continué à pied. On a perdu la trace de Jenny Bertrand et de sa petite fille.
Hélène regarda Gaspard. Les circonstances rapportées par M. Résidor correspondaient parfaitement à ce que l'on savait déjà. Gaspard et Hélène lurent la lettre du notaire.
À ce point que nous pouvons informer M. Draper, et même que nous le devons, conclut M. Résidor.
Je ne sais, dit Hélène.
Eh bien, nous ne l'informerons pas. Nous chercherons d'abord Jenny Bertrand. C'est une femme jeune encore et il est très probable qu'elle aura repris sa profession. Ces femmes illustres aiment les pseudonymes et les aventures, mais il est sûr que nous la retrouverons dans quelques studios, sur quelques films et probablement à l'étranger.
Pourquoi à l'étranger ? Dit Hélène. Ne s'est-elle pas souciée de retrouver ses enfants ?
Je pense qu'elle s'en est souciée et qu'elle a cherché en vain. Comment supposer que vous auriez été recueillis par un diamantaire ?
À mon avis, elle s'est exilée après avoir vu échouer toutes ses tentatives. Emmanuel Résidor avait saisi la pochette de son veston. Hélène et Gaspard suivaient toutes les voltes de cette pochette qu'ils maniaient avec une rapidité hallucinante.
« Et nous ferons ensemble du cinéma !» « Chère Hélène, conclut Emmanuel Rosidor, nous entrerons en relation avec toutes sortes de personnages remarquables. Vous connaîtrez le marché international des artistes. Et un jour, nous verrons paraître Jenny Bertrand sous un nom emprunté, avec un visage inconnu. Et vous la reconnaîtrez néanmoins. Il faut agir, jouer, provoquer des rencontres. »
En dépit des allures de charlatan qu'affectait Emmanuel Rosidor, Hélène était éblouie. Sans aucun doute, le souvenir de ses anciens rêves ressemblait à une mise en scène, et déjà ce décor de palmiers et de bouleaux indiquait dans quel sens elle devait chercher Maman Génie. Que Maman Génie fût illustre l'engageait encore à croire qu'elle touchait à la vérité. L'excentricité d'un peuple d'artistes lui expliquait aussi la nostalgie qu'elle avait pu éprouver dans le milieu sévère de la maison Drapeur.
« Et nous serons artistes, n'est-ce pas ?» s'écriait Emmanuel Rosidor. « Ses cheveux et ses yeux doivent appartenir au monde !»
Gaspard regarda Hélène. Depuis le jour où il l'avait aperçue à Lominval, derrière l'église, il était resté dans le même émerveillement. Il s'étonnait cependant qu'une telle beauté dût être livrée à l'admiration publique. Emmanuel Rosidor, aussitôt après le thé, proposa à Hélène de voir les génériques de certains films avec les présentations des artistes.
Il se pourrait qu'elle y eût aperçu Maman Génie.
Gaspard suivit Hélène comme un jeune chien inutile lorsque M. Rosidor l'emmena à travers de nombreux couloirs jusqu'à une salle de projection. Cette salle, profonde et luxueusement ornée de broderies chinoises et de sculptures rehaussées d'or, ne comportait que deux rangs de fauteuils. Bidivert, que M. Rosidor avait appelé, reçut les ordres de son maître et entra dans la cabine pour y passer les séquences qui lui étaient demandées. Hélène assista avec passion à ce défilé d'artistes émouvantes et comme perdus dans leur tragédie. Gaspard était lui-même livré à l'admiration, mais il avait aussi le désir de fuir au plus profond de la forêt. Après la séance, M. Rosidor déclara qu'il avait réservé à Hélène un appartement au premier étage. Et il considéra Gaspard avec ironie.
« Il faut que je m'en aille, » dit Gaspard.
Hélène répondit aussitôt. « Il faut que tu rejoignes Niklas. Je t'apprendrai ce que j'aurai décidé. »«
Mais tout est décidé, » s'écria M. Rosidor. « Hélène a trouvé sa vocation, sa vraie famille, et elle ne tardera pas à avoir des nouvelles de Maman Jenny. »
« Au revoir, » dit Gaspard.
« Nous devrons nous séparer, » reprit Hélène, « mais pas aussi brusquement. La semaine prochaine, à Trinthe, nous parlerons encore. »« La volonté d'une future vedette est sacrée, » conclut M. Rosidor. « Bidivert vous conduira où vous le désirerez et quand vous le désirerez. »
Gaspard prit congé. Il fut convenu qu'Hélène se rendrait à Trinthe le samedi suivant dans l'après-midi, après quoi Emmanuel Rosidor donna l'ordre à Bidivert de ramener à Trinthe M. Gaspard Fontarel. À peine eut-il le temps d'y songer. Quand il retrouva Niklas, la tristesse régnait au campement. Le vieux cheval s'était mis à tousser et Niklas croyait à une bronchite.
Ces jours-ci, nous avons parcouru la région et nous avons joué dans les villages. Le cheval a dû être fatigué par les sacrées côtes qu'il y a dans ce pays.
Enfin, on demanda à Gaspard comment tout s'était passé. Très bien, répondit Gaspard. Hélène retrouvera Maman Génie, qui est une actrice, et elle va sans doute elle-même apprendre à jouer grâce au conseil de M. Rosidor. Niklas ne fit aucun commentaire. Ce jour-là et les jours suivants, on ne put pas quitter Trinthe à cause du cheval qui toussait de plus en plus. Niklas restait taciturne.
« Nous retournerons sur notre bateau à Anvers, » disait-il. « Et toi, tu rejoindras ta tante à Lominval. »«
Je dois encore revoir Hélène samedi prochain, » répondit Gaspard.
« Tu la reverras samedi prochain, et puis il faudra bien partir. »
« Du moment qu'Hélène aura retrouvé son pays, » dit Gaspard.
« Son pays, » reprit Niklas.
J'aurais parié qu'il était encore plus beau que cela.
Comment pourrait-il y avoir quelque chose de plus beau ? Disait Gaspard.
Comment ? Répétait Niklas en regardant son vieux cheval étendu sur la paille.
Fin de la première face de la septième cassette. Le pays où l'on n'arrive jamais, par André Dautel, page 183.